bienvenue pour une heure d'émission comme d'habitude. C'est le titre. Émission préparée et animée par Paul Sud. Reprise, version différente de chansons, poèmes, sketchs, classiques, jazz. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce. En multidiffusion sur Radio Transparence et Oxygène FM.
On y va comme d'habitude.
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 Comme d'habitude.
Alors bonjour aux auditeurs de Radio Transparence et de Oxygène FM, c'est Gilbert Lafaye.
Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, pas d'enfance martyr, personne m'a aidé. Jamais été battu, ni fouetté, ni giflé. Mais pourquoi? Pourquoi moi? J'ai beau chercher partout, ça c'est sans arrêt mon passé, revoir toute mon enfance. Mais j'ai jamais souffert. Les vacances à la mer, les cadeaux à Noël, les habits à la mode, les petits cours de latin. Y'en a qui ont du bol, qui ont de longues maladies, des parents alcooliques, une lourde hérédité, eux ils en ont à dire. Moi j'ai rien à chanter, je virais toutes mes cuties, sauf une fois, à cause du timbre qui s'était décollé dans mon bain. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter. J'ai pas pu choisir. C'est lourd, le passé. J'ai jamais été soudeur, ni mineur, ni tôlard. Le destin, tu peux pas lutter contre. J'ai beau chercher partout, fouiller dans les archives de famille jusqu'au cousin Germain. Pas trace de métallo. Ingénieur, professeur, avocat, chirurgien, musicien, journaliste, critique d'art, PDG. Y'en a qui ont du bol, qui sont nés dans la zone, qui ont bossé en usine, vécu en HLM. Toujours tout pour les mêmes. Moi j'ai rien à chanter. J'ai redoublé ma sixième. Et encore c'était juste. J'ai bien failli passer. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien à chanter, rien qui puisse servir et rien à exploiter. Seulement j'étais noir, juif, arabe, portugais. Non, je suis là, rose et frais, bien français. La tuile. J'ai beau chercher partout, faire le tour des amis, des copains éloignés. Par le moindre immigré. Des Thierry, des Chantal, des Jean-Charles, des Arnaud, des Benoît, des Solange. Pas d'Abdoul, pas d'Ahmed. Y'en a qui ont du bol, qui se font tabasser, privés d'identité, inculpés, expulsés. Ça, c'est des bons sujets. Moi, j'ai rien à chanter. J'ai vécu sans histoire. Et il y a toujours eu des femmes de ménage à la maison. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly blues. Encore. J'ai le blues, Neuilly, Neuilly blues.
j'ai le blues
de Neuilly, Neuilly Blues. J'ai le blues de Neuilly, Neuilly Blues.
Je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle série d'émissions, toujours autour d'un artiste. Aujourd'hui, c'est Gilbert Lafaye. Gilbert Lafaye, moi, c'est un artiste que j'ai suivi pendant des années. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je suis entré dans son œuvre artistique au travers de cette chanson Neuilly Blues, dont on va parler un peu. J'ai eu l'occasion, incidemment, au Relais de Poche à Verniolles, de croiser Gilbert Lafaye qui venait présenter son premier livre sur son grand-père Jean Carole qui a vécu en Ariège une partie de sa vie et surtout autour du monde, vous allez voir, on va découvrir tout ça, et qui a 2 ou 3 ans a retrouvé des écrits de ce grand-père, une malle qui lui a été livrée chez lui, et il a exploré les livres qui étaient contenus et les écrits dans cette malle, et il a eu l'idée d'écrire un livre sur son grand-père et étant revenu aux sources en Ariège de ce grand-père, il a choisi une maison d'édition ici en Ariège, Vox Criba, avec Florence Cortès, pour publier un premier recueil de textes et un second en cette année 2025. Donc tout ça, c'est expliqué dans la rencontre que j'ai eue avec lui donc en septembre 2025, une longue interview que je vais enrichir d'extraits d'œuvres de Gilbert Lafaye, puisque ses chansons ont enchanté moi une partie de ma vie, continue à le faire, et j'ai envie de les partager avec vous, même si tout le monde ne connaît pas Gilbert Lafaye, et c'est bien dommage. J'espère que vous allez le regretter. Merci Gilbert, donc on se rencontre dans l'hostellerie de La Poste à Tarascon, puisque vous êtes venu faire un séjour de travail intensif en Ariège pour présenter le deuxième ouvrage que vous consacrez à votre grand-père. On va y revenir tout au long de l'interview. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'ambiance, comment ça se passe l'Ariège?
Eh bien oui, je fais la promo de mon grand-père. C'est curieux, c'est assez agréable, c'est amusant, c'est intéressant. Alors j'ai été invité au salon du livre à Bagnat, j'ai été invité au forum des associations.
C'est l'occasion de rendre hommage à Vox Criba.
On a inauguré une placette au nom de mon grand-père Gabriel Lafaye. À l'occasion de cette inauguration, je fais un petit discours devant monsieur le maire et les élus. Et puis ce soir, je vais donner une conférence avec invitée par l'Université populaire de Foix à l'hôtel de ville de Foix. Voilà, une conférence sur cet homme, sa vie, son œuvre.
Et c'est l'occasion de saluer le travail en coulisses de la maison d'édition Vox Criba et de sa présidente, non elle n'est pas présidente, de son activiste en chef, Florence Cortès.
Oui, tout à fait, parce que lorsque nous sommes rentrés en contact, on s'est parlé une fois et au bout d'une demi-heure, elle m'a dit banco, quoi. C'est une femme passionnée, enthousiaste, et qui fonctionne au coup de cœur comme ça.
Voilà. Et donc le principe de notre rencontre et de notre échange aujourd'hui, ça va être pour moi de vous proposer une rencontre avec ce grand-père dont on va parler et votre œuvre. Et on a commencé par écouter Neuilly Blues. Et là, j'ai cherché un petit peu, j'ai lu un petit peu les ouvrages que vous avez faits et j'ai trouvé un extrait d'une lettre à Flaubert en 1877 dans lequel Jean Carole à l'époque, c'était son nom puisque Carole, ça vient de la tour de Carole, hein, c'est, oui. C'est l'origine de son nom de plume, et il disait « Mon Dieu, je ne suis pas plus intéressant qu'un autre, je ne suis qu'un homme de bonne volonté, espèce qui fourmille, il n'y a rien dans ma vie qui sorte d'une douloureuse banalité, rien dans mes aventures dont on puisse faire une pièce en un acte ou seulement un médiocre chapitre d'un roman, j'ai été riche jusqu'à l'âge où l'on apprécie la fortune. » Donc je trouvais que le lien avec Neuilly Blues était quand même assez troublant.
C'est rigolo. Alors d'autant que, évidemment, moi j'ai connu les écrits de mon grand-père, simplement depuis 3 ans. Et Neuilly Blues a été écrit en 1977. Donc, évidemment, c'est très amusant d'avoir repéré cette coïncidence.
Alors j'en ai trouvé d'autres, on va voir si vous êtes d'accord, hein. C'est, oui. C'est une confrontation, hein. Vous allez peut-être me contredire sur certains aspects, mais en tout cas, cette idée, cette... on va dire cette capacité d'autodérision, je vais dire un petit peu, ou d'humour très, très forcé, ça c'est quand même un point commun que vous avez avec lui.
Oui, c'est un peu ça. Évidemment, les contextes sont différents. Lorsqu'il écrit cette lettre à Flaubert, cet appel au secours, c'est un jeune homme de 21 ans. La France vient d'être occupée par l'armée prussienne. Il doit gagner sa vie, il est soutien de famille, il est déraciné, puisque voilà, c'est tout à fait différent. Et puis il a été nommé, il est en Normandie, ce qui n'est pas une région qu'il adore.
À Rouen,
il n'aime pas le climat.
Il est pigiste dans un journal.
Oui, bon, il va faire son chemin après. Et puis, il voudrait bien réussir un peu par les lettres, quoi. Et puis il a vraiment pas d'argent. Moi, quand j'ai écrit Neuilly Blues, c'était après mai 68. Et par rapport au grand courant de chansons engagées qu'il y avait à l'époque, où l'engagement parfois passait un peu les bornes. C'est-à-dire que les gens, les artistes, certains, pas tous, s'inventaient des biographies, prétendaient qu'ils avaient travaillé à l'usine, prétendaient qu'ils avaient fait de la prison, que sais-je. Il fallait se donner un peu une allure de baroudeur, de zonard ou autre.
De sac et patogas.
Alors, moi, effectivement, je ne pouvais pas me revendiquer d'une telle... Je suis né dans une famille artiste, mais à l'essence bourgeoise. Et j'ai passé ma scolarité à Neuilly-sur-Seine. Bon. Et donc, je me suis amusé. J'ai dit, tiens, je vais prendre le contre-pied. Et je m'étais souvenu à l'époque, je n'avais pas lu mon grand-père, mais je m'étais souvenu de Boris Vian, je suis snob.
Ouais.
Et donc, c'était l'occasion aussi de faire une chanson à tiroir pour donner un coup de patte aux copains qui exagéraient. Et puis voilà.
Et après, moi, j'ai trouvé, pour prolonger un petit peu, on va écouter une deuxième chanson, hein, pour marquer ça. Une chanson qui, pour moi, alors, il y a le mot blues dedans, mais c'est pas tout à fait la même chose. Blues d'ici ou ici.
Oui.
Je la trouve en miroir avec cette chanson qui a quand même eu beaucoup de succès, Neuilly Blues. Et moi, j'aime beaucoup cette chanson, Blues d'ici, plutôt la version folk,
oui.
Hein, la version un petit peu... Voilà. Et on retrouve... en tout cas, j'aimerais bien que vous m'expliquiez par rapport à Neuilly, le côté ici, on écoute la chanson.
Ici, les rues sont vides et les maisons sont vieilles. Il n'y a que les chiens qui se chauffent au soleil. Pas de néon qui brille, ni de boîte à la mode. Et tu rentres chez toi sans composer de code. Si ça sent la terre et le miel de forêt, et les hommes se saluent en touchant leur béret. La mairie c'est l'école et la poste est en face. Il y a juste une cabine et personne ne la casse. Ici on coupe du bois si on veut se chauffer, et on joue au billard dans la salle de café. On achète son melon sur le bord de la route. Pas la peine de piquer un caddie chez Mammouth. Ici c'est la belote et la pêche à la ligne. C'est le linge aux fenêtres et les roses dans les vignes. Y a pas de cage à poules ni de tour en parpaing. Mais dans tous les clapiers y a de l'herbe à lapin. Ici c'est tout petit, ce n'est pas l'Amérique. Pas de mur anti-bruit ni de périphérique. T'as encore quelques vieux qui s'éclairent au pétrole, mais t'as aucun gamin qui s'éclate à la colle. Ici on vit le jour et on voit les saisons, et on entend la pluie sur les toits des maisons. Ici on dit bonjour, au revoir et merci. Si on ferme l'école, qui pourra vivre ici? Ici c'est les girolles qu'on ramasse à la pelle, pas les boîtes de McDo à côté des poubelles. T'as pas de croix gammée sur les murs de béton, ni de type dans la rue couché sur des cartons. Sont vieilles, il n'y a que les chiens qui se chauffent au soleil. Pas de néon qui brille, ni de boîte à la mode. Et tu rentres chez toi sans composer de code. Et tu rentres chez toi sans composer de code. Et tu rentres chez toi sans composer de code.
Blues d'ici, une chanson de Gilbert Lafay qui a une deuxième version, une version plus lente qui s'appelle Ici, mais qui reprend exactement le même texte. Et on va demander à Gilbert Lafay de nous expliquer le lien entre Neuilly Blues et cette chanson-ci dans son parcours personnel de vie et de famille.
Neuilly Blues, à l'époque, a fait grincer quelques dents. Et bon, ça m'a été très facile de me défendre. Il y avait une certaine intolérance idéologique à l'époque. Il fallait justement, c'était le fameux truc, d'où tu parles toi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et j'avais trouvé la parade, je disais à mes détracteurs, vous savez, à Neuilly ont vécu Jacques Prévert, Yves Montand, Simone Signoret, Louis Aragon et quelques autres qui ne sont pas trop suspects quand même. Et je dis, ben c'est ça, oui, j'ai vécu là, mais mes parents n'étaient pas très riches. Ils étaient locataires, et ça s'est passé comme ça, quoi. Mais j'ai quitté Neuilly très, très vite. J'ai moi-même détesté Neuilly, oui. Qui était déjà une ville détestable, puante même. Et je suis parti le plus vite possible, dès que j'étais étudiant, quoi.
Et donc, vous êtes allé dans un territoire plus rural.
Alors, non, pas tout de suite.
C'était Montauban, d'abord. Hein. Il y a eu Montauban, qui est une étape importante dans votre vie. Mais ce que je veux dire par rapport à la chanson Blues d'ici, quand vous dites « Ici, les rues sont vides et les maisons vieilles. Ici, ça sent la terre, pas de croix gammée. Ici, si on ferme l'école, qui pourra vivre ici ?» Donc, au travers de ça, de ce langage-là, vous défendez une forme de qualité de vie différente.
Oui. Et bien, après mes études de lettres, je fais différentes expériences professionnelles. Et puis j'ai commencé la chanson qui s'est bien passée tout de suite. Et puis je me suis marié, j'avais des enfants et on habitait une ville de banlieue parisienne qui s'appelle Colombes, je peux le dire maintenant. Nous avions trouvé une petite maison charmante et j'ai vu ce quartier, qui était un quartier ouvrier de banlieue, basculer dans la drogue, la délinquance, l'insécurité et tout ça. Parfois je trouvais des seringues devant chez moi, il y avait des voitures qui flambaient et je voyais les petits gamins qui venaient jouer à la maison avec mes enfants. Je voyais qu'ils étaient devenus des voyous, des délinquants. Et un jour, j'ai été invité par une amie à Roussey-les-Vignes, qui est dans la Drôme provençale. C'est une vieille amie de mes parents, et je suis là avec ma femme et une de mes filles, qui était encore petite. Et là, on a débarqué dans cette région absolument idyllique. C'est près de Die, voilà, la région, facteur cheval, Montélimar n'est pas très loin, Dieu le fit. Les vignes, le soleil, les vieilles maisons, et les roses dans les vignes, ça m'avait plu. J'avais demandé, mais pourquoi il y a des roses dans les vignes? Ah ben, parce que ça fait joli, c'est sûr. Mais c'est parce que les roses attrapent certaines maladies avant la vigne. Alors, quand on voit que le rosier est malade, vite, on va traiter la vigne. Bon, cet endroit m'avait enchanté. Et puis j'ai dit, mais mince, qu'est-ce qu'on fout là-bas? C'est pas possible, cette vie de dingue qu'on mène en région parisienne. Et il a fallu un peu de temps. Et c'est la suite de ça que je suis allé vivre à Montauban pendant plusieurs années avec femme et enfant. Et voilà, c'était ça le truc. Mais c'était le contraste entre ce que nous venions de vivre en banlieue parisienne, qui était même... Colombes, c'est même pas la grande banlieue, hein, c'est la première ceinture. Une espèce d'effondrement social, urbain, et... Bon, et la vie simple et honnête et joyeuse qu'on voyait là, dans cette Drôme provençale.
Et ça va traverser votre engagement en tant que chanteur. On va retrouver dans des chansons où vous ne vous contentez pas de dénoncer, hein, ça c'est trop facile, mais vous tracez des pistes sur des alternatives, hein, des choses qui seraient possibles. Donc dans cette chanson, on retrouve ça un petit peu, cette lueur d'espoir qu'on peut vivre différemment en ville. Alors je vais quand même refaire un petit peu le lien avec Jean-Carole, parce que là on l'a un petit peu perdu de vue. Vous parlez de vos résidences en France et autres, mais vous avez un trait commun important avec lui, c'est que vous adorez les voyages. Vous adorez les voyages et les voyageurs, au contraire d'un certain, un certain ethnologue qui disait « je hais les voyages et les voyageurs », vous avez quand même ce trait commun, vous avez parcouru le monde, alors à titre professionnel dans un premier temps, en tant qu'accompagnateur oui. de tourisme, mais aussi à titre professionnel. Et ça, Jean-Carole, quand on regarde son parcours, c'est extraordinaire. Il est parti donc d'ici, mais il est allé en Nouvelle-Calédonie, à Madagascar, en Australie. C'est impressionnant. Oui. Donc, est-ce que c'est bien un trait commun que vous avez avec lui?
Mais oui, je dirais que lui était vraiment un pionnier, parce que moi, je suis allé à Madagascar. J'ai trouvé le voyage long, ça avait pris 2 jours. À l'époque, c'était 6 mois. 6 mois de bateau, en passant par le canal de Suez, hein. 6 mois allongés, bon, terrible. La Nouvelle-Calédonie, il a fait toute la Russie à cheval. Bon, enfin, c'est... Alors, c'est curieux, parce que ma fille aînée, c'est pareil, elle a la bougeotte... là, elle a été beaucoup aux États-Unis. Là, elle a été invitée. Elle va aller à Taïwan faire une exposition de peinture. Effectivement, mon frère était un grand voyageur aussi. On a l'impression que le voyage est dans les gènes. Et pourtant, et il y a encore un autre trait commun, c'est que je suis très casanier.
Oui, c'est ça que le...
Je déteste voyager. je déteste déménager. Oui. J'ai passé ma vie à déménager. Et lui aussi, il a passé sa vie à déménager et à voyager.
Donnez-moi vos bagages, je vous les fais monter. C'est au 5e étage, par ici, s'il vous plaît. C'est au fond du couloir. Nous vous avons gardé la jolie chambre ivoire. Monsieur doit être sans doute fatigué par la route. Le temps est si mauvais, le temps est si mauvais. Monsieur doit être sans doute fatigué par la route. Le temps est si mauvais, le temps est si mauvais. Ah monsieur, quelle saison! Nous sommes toujours complets et nos réservations vont jusqu'à la fin mai. On a dû refuser Madame de Grandvison et Monsieur le Chéquier. C'est une chambre parfaite avec double fenêtre, toute capitonnée, toute capitonnée. C'est une chambre parfaite avec double fenêtre, toute capitonnée, toute capitonnée. Vous avez dans l'armoire 2 autres oreillers. Tous les journaux du soir sont à votre chevet. Si vous me permettez, pour l'air conditionné, tout doit rester fermé. La rue est très bruyante, dès 5 heures du matin. Ici on n'entend rien, d'ici on n'entend rien. La rue est très bruyante, dès 5 heures du matin. Ici on n'entend rien, ici on n'entend rien. Je vous laisse à présent, tenez, voici la clé. Prenez-vous des croissants au petit déjeuner. Bonsoir et à demain, bonne nuit, dormez bien. Faut-il vous réveiller? Oh, en cas de besoin, vous n'avez qu'à sonner. Appelez le gardien, appelez le gardien. Oh, en cas de besoin, vous n'avez qu'à sonner. Appelez le gardien, appelez les gardiens.
Tour d'Ivoire sur les voyages et les voyageurs. Moi j'aime beaucoup cette chanson aussi, qui n'est pas parmi les plus connues de Gilbert Lafaye. Avec ce texte, on a dû refuser Madame le Grand Bison et Monsieur le Chéquier. La rue est très brillante, ici on n'entend rien pour des touristes. Voilà. Et on retrouve Gilbert Lafaye dans cette interview à Tarascon en septembre 2025.
Parmi les épisodes, il y en a un, moi, qui m'a particulièrement frappé. Alors, je renvoie les auditeurs et les auditrices à votre premier ouvrage qui s'appelle Jean Carole, un Ariégeois au cœur de l'histoire, qui raconte ces voyages.
Oui, le périple.
Voilà,
oui.
Le périple. Et surtout, il ne se contente pas d'aller voir, il s'engage, enfin, il vit une vie forte, et en particulier cet épisode à Madagascar, qui raconte de façon, dans plusieurs articles de journaux, des compilations, etc., etc., où il assiste quand même au summum du colonialisme, enfin, d'une façon de s'ingérer dans la vie locale avec ces deux figures locales qui sont arrêtées, torturées et abattues dans la même semaine, quoi.
Oui, bah ça c'est un épisode qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire, dans les manuels, qui est évidemment rigoureusement authentique, et j'ai tous les documents. Et dont on parle en revanche beaucoup dans la presse anglo-saxonne, dans les livres d'histoire anglo-saxons, mais pas tellement dans les livres français. Il était secrétaire général privé du premier résident de France à Madagascar. La France venait de conquérir Madagascar. C'était la grande époque où les Européens partaient coloniser. Si ce n'avait pas été la France, ça aurait été la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Et bref, c'est le premier résident qu'on envoie là-bas. Monsieur Laroche était un brave homme, un humaniste, quelqu'un qui aimait les lettres, et c'était pas un sanguinaire. Et justement, Paris l'a trouvé trop mou. Parce que les Malgaches, ils n'avaient rien demandé. Et il y a eu des mouvements de révolte, de rébellion contre l'occupation française. Et donc Laroche a été rappelé par Paris et a mis à la place Gallieni. Et avec lui, c'était une autre musique. Mmh. Au point que les Malgaches l'avaient surnommé le Cruel. Gallieni a fait arrêter...
Presque au hasard.
Oui, oui, des gens qui n'avaient rien fait. Pour faire des exemples, il a fait arrêter des gens. Il a fait des simulacres de procès. Il les a fait condamner à mort pour faire des exemples. Et de ça, Jean Carole, mon grand-père, avait toutes les preuves avec les documents signés de sa main, puisque on l'avait fait venir aussi à Madagascar. Il l'avait fait venir pour monter l'imprimerie nationale, qui publiait le journal officiel. Donc, il recevait ses ordres directement du résident, d'abord de Laroche, puis de Gallieni, qui lui disait « Vous écrirez ça, 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 ça et ça. » Et il y a une lettre que j'ai. On lui dit, le journal officiel paraissait le vendredi, une fois par semaine. Alors, mardi, nous avons arrêté tel et tel et tel. Mercredi, nous avons jugé. Ils ont été condamnés.
Ils ont fait appel. L'appel a été rejeté.
Ils ont été condamnés, exécutés le vendredi. Tout joué d'avance. C'est-à-dire des exécutions sur ordre. Et donc la preuve que la justice militaire était une parodie de justice. Quand le livre est paru, ça a fait un énorme scandale. Mais il a été beaucoup soutenu, notamment par Clémenceau. Et parce que Gallieni voulait sa peau, et il voulait le traduire devant le Conseil de guerre. Et le conseil de guerre a reculé parce que Jean Carol a fait savoir qu'il avait toutes les preuves écrites et signées de la main de Galliani et tamponnées. Alors, s'il y avait eu procès, le scandale aurait été dix fois pire. Et dans la foulée, ça a eu une répercussion heureuse, parce que Émile Zola avait lui aussi affirmé que la justice française condamnait sur ordre, sans procès. Mais lui n'avait pas les preuves. Mais le conseil de guerre ne le savait pas. Donc, ils ont reculé, ils ont eu peur aussi, et ils ont laissé tomber pour Zola.
Alors si on va faire le lien avec votre propre, alors je ne sais pas si le terme engagé vous plaît, mais votre propre écriture sur ces sujets-là, moi il y a beaucoup de chansons, mais j'en ai relevé bien évidemment deux. Alors la première, Le président et l'éléphant, hein, qui est quand même très très ciblée, et la deuxième qui est plus générique, 2 minutes fugitives.
Oui.
Donc je vous propose de les écouter successivement pour marquer une pause, mais je ne sais pas si ça va être une pause de détente, hein, par rapport à ces sujets-là.
Comme d'habitude.
Vous êtes bien décidément de mieux en mieux dans l'émission Comme d'habitude, préparée et animée par Paul Sud, votre serviteur. Et vous savez qu'avec cette phrase rituelle et le jingle des Zigzazou juste avant, on est à peu près à mi-parcours de cette émission, la première d'une série sur avec Gilbert Lafaye. Gilbert Lafaye, un artiste que j'aime beaucoup, c'est en général autour des artistes que j'aime beaucoup que je fais des émissions, et qui a arrêté de chanter il y a 4 ans à peu près, et que j'ai retrouvé en 2024 et en 2025 à l'occasion de la parution de 2 ouvrages qu'il a fait sur des recueils de textes autour de son grand-père Jean Carol, qui a vécu en Ariège, et lui y est revenu pour publier ses 2 bouquins. Je l'ai rencontré en septembre 2025. Cette interview m'a permis de faire cette série d'émissions et de vous proposer donc des extraits de son œuvre de chanteur, d'auteur de sketch, une œuvre très très riche. Et juste avant la pause, je parlais de 2 chansons très connues de Gilbert Lafaye. Parmi les plus connues, celles qui l'ont lancé, c'est Le président et l'éléphant, et ensuite 2 minutes fugitives. Et bien on les écoute tout de suite et on retrouve ensuite Gilbert Lafaye.
J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où y a pas d'éléphant. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Ils ont pas d'éléphant, mais ils ont des moutons, des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président? M'ont demandé mes enfants en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a. Et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA. Ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA? Où est-ce que c'est l'ENA? Est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est au Kenya? Mais non, c'est à Paris. Et Paris, où est-ce que c'est? C'est derrière la prairie. Bon, maintenant ça suffit, il commence à tirer. Ils ont eu le vieux Paul qui pouvait plus courir, Morissette et Fredo qui se grattaient le dos. Ils étaient sans défense, je dis pas ça pour rire, ça aurait pu être pire. On a eu de la chance, qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Nous on vit bien au chaud, au fin fond de la brousse. On se pousse au bord de l'eau, et là on s'éclabousse. On fait partir les mouches qui sont dans nos oreilles. Après on prend des douches, à poil sous le soleil. On n'est pas bien sauvage, juste un peu corpulent. L'œil tout rond, pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à pas lent, c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Dis où est-ce que c'est les dents?
C'est une chanson naïve, un accord de cristal, 2 minutes fugitives, sans rien d'original, comme un bruit de gencive contre une porte en métal, comme un bruit de gencive. C'est une larme qui coule comme une goutte de sang, le regard de la foule des martyrs innocents. C'est une force qui saoule l'engrenage incessant, un bruit de mort qui roule et qui va grandissant. C'est une force qui saoule et l'on se sent tout seul, mais c'est ton sang qui coule, c'est mon poing dans ta gueule. Quand un enfant s'écroule, quand un soldat dégueule, c'est une force qui saoule un amas de linceul. C'est une chanson naïve, un accord de cristal, une nouvelle relative quand on lit son journal. C'est la lame incisive, la douleur vertébrale, c'est la lame incisive. C'est une chanson naïve, un accord de cristal, sur des choses qui arrivent et qui deviennent banales, comme un homme que l'on prive de parties génitales, une femme écorchée vive, une fillette qu'on empale. C'est ma terre planétaire qui n'est pas pour demain, tant qu'il y aura des mains pour trancher ses artères. C'est un flot quotidien et l'horreur et la guerre. C'est un visage humain piétiné sur des pierres. C'est une chanson naïve, un restant d'idéal, un rêve à la dérive sur un air de cristal. Une chanson émotive, sans théorie profonde, de minutes fugitives qui changeront pas le monde. C'est une larme qui coule comme une goutte de sang.
Moi, souvent, c'est l'indignation qui est le moteur. J'avais été indigné quand j'avais appris que M. Giscard d'Estaing, qui venait de créer le premier secrétariat d'État à l'écologie, partait passer ses vacances, ses loisirs, au bout du monde, à tuer des espèces en voie de disparition. J'ai dit, mais c'est ubu, c'est pas possible. Il demandait même parfois à chasser des espèces protégées, à chasser en dehors des périodes de chasse. Il y avait un livre qui était sorti, que je n'ai lu qu'après avoir écrit la chanson, qui répertoriait le nombre, toutes les espèces que ce président de la République française avait descendues. Des ours, des loups, des...
Un tableau de chasse.
Tableau de chasse, mais c'était vraiment un viandard, et c'est un homme qui aimait tuer, quoi. Et moi, ça m'avait révolté, puis ce côté donneur de leçons. Et donc... C'est peut-être un trait commun aussi avec Jean Carole. J'ai toujours adoré Jean de La Fontaine. Et je me suis dit, mais comment dire. Puis j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais faire comme La Fontaine, je vais faire parler les animaux. Et je ne vais pas le citer. Ce sera un président, mais tout le monde va le reconnaître. Et donc j'ai mis les rieurs de mon côté. La chanson a fortement déplu en haut lieu, mais on n'a rien pu faire contre moi. C'est des éléphants qui parlent. Qu'est-ce que vous voulez attaquer en justice des éléphants qui parlent? Et donc, c'est la chanson qui m'a fait connaître. Mais le moteur, c'était vraiment l'indignation. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui sont au sommet de l'État, qui se comportent comme des voyous, quoi?
Et où est-ce que c'est l'ENA?
Oui, l'ENA. Et voilà. Puis, 2 minutes fugitives, c'est la même chose. C'est pas l'indignation, c'est l'accablement, c'est... C'est la souffrance, c'est de voir l'état du monde, la misère, la guerre, la paix sans arrêt menacée, ces flots de ces massacres inutiles. C'est ça, c'est une chanson sous le coup de l'émotion.
Ça me fait penser à Casse-tête.
Oui, il y a de ça. Et puis en même temps, dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis dans un pays en paix à écrire une chanson. Bon.
2 minutes fugitives qui ne changeront pas le monde.
Et quoi oui, que... et puis ce soir, je vais aller manger au restaurant. Voilà. Et mais en même temps, si c'est vrai que ce soir, je vais aller manger au restaurant, si je ressens cette émotion, si je pense ça, il faut le dire quand même. Ce qu'il faut, c'est peut-être, il ne faut pas en faire commerce. Il ne faut pas que je joue à chaque disque. J'ai une chanson pour dénoncer, parce que là, ça va devenir un fonds de commerce. et suspect.
Alors, on va élargir la perspective, justement, pas rester sur cette partie-là de votre homme. Il y a beaucoup de chansons qui sont quand même sur ce registre-là. Moi, j'ai noté Le Maître d'école, Homme en boubou, Femme en sari, Petite fille de Chiang Mai, on va y revenir après, chez Monsieur Lee, et d'autres, Le Tyran des Bermudes, etc. etc. Je voulais vous faire réagir sur une remarque qu'a fait Hélène Azéra quand elle vous a invité dans son émission Chanson Boom, là, sur France Culture. Elle disait, avec le temps, en parlant de vous, n'est-il pas devenu l'éléphant de son premier succès dans un monde où les présidents chasseurs prolifèrent ?
J'aimais bien le maître d'école, il nous lisait des poésies, mais aujourd'hui la ville est folle, même les enfants ont des fusils. Où est la chanson de Prévert? Tous les oiseaux ont disparu, y a pas de bois pour cet hiver, et plus un arbre dans les rues. Il est loin le temps des cerises et du chemin des amoureux. Les filles se donnent pour des devises et les garçons se battent entre eux. J'aimais bien le maître d'école, il nous faisait chanter debout, et on se terre dans les sous-sols, tout le pays est à genoux. Il est parti sans sa valise, on n'a pas pu lui dire adieu. Ils vont prier dans les églises et font la guerre au nom de Dieu. Bien le maître d'école, son bon sourire et ses yeux doux, il était libre de parole et nous donnait confiance en nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est tombé devant mes yeux, j'ai vu le sang sur sa chemise. J'ai 14 ans et je suis vieux. J'ai 14 ans et je suis vieux.
Le Maître d'école, une chanson qui se passe de commentaires, je pense, qui renvoie forcément à une actualité de guerre dans le monde. On pense à l'Afrique, à l'Inde, mais on peut penser au Moyen-Orient, Proche-Orient et dans d'autres pays en conflit. Chanson majeure, et je vous propose d'écouter comment Gilbert Lafaye se positionne par rapport à ces chansons dites graves.
Évidemment, c'est... Encore une fois, quand on défile ici chez nous, enfin, ça commence à changer un peu, mais on risque pas grand-chose. En tout cas, on risque pas de se prendre une balle dans la tête, comme dans certains pays. Jusqu'ici, il y a quand même la liberté de parole, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer. Sur les grands médias, moins, beaucoup, beaucoup moins. Mais pour moi, ça doit relativiser les choses et ça doit... La personne qui s'exprime, que ce soit un peintre, un romancier, un chanteur, doit, par la force des choses, doit quand même contextualiser et dire un peu qui je suis, ou ne pas hésiter à se moquer de soi aussi, parce que... oui, je ne suis pas Victor Jara. Hein? Si je chantais certaines chansons, je ne risquais pas l'arrestation, il y a ce qu'on me coupe les mains.
Chanson du Joe Bocarne, lettre à Kissinger.
Et donc, un peu de décence, messieurs. Voilà.
On va basculer sur un autre registre qui est très prégnant dans votre œuvre, dans votre carrière, c'est justement ce registre de l'émotion, mais par le rire, par l'autodérision, par le déguisement, par les personnages que vous inventez. Et ça, c'est vraiment un trait commun avec Jean Carroll, puisque lui, il a été un homme de théâtre. Alors, il a beaucoup écrit pour le théâtre, mais il a aussi joué. Hein. Il a fait jouer des artistes de son époque, Lucien Guitry, et d'autres. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve un trait commun. Vous êtes un homme de scène, chanson, mais vous avez inventé un genre, le sketch. Vous avez joué des sketchs sur scène très régulièrement. Je renvoie à votre somme qui s'appelle Kaléidoscope, préfacé par Philippe Delerme, où vous racontez toute votre carrière et vous mettez, ce qui est assez rare, le texte intégral de tous vos sketchs et vos sketchs. Et ça, c'est vous êtes vraiment sur la scène. Dans votre univers.
J'ai beaucoup aimé rire, j'ai beaucoup aimé faire rire, susciter le... Voilà, entendre une salle s'esclaffer, c'est quand même très agréable. Ça fait du bien de voir sortir les gens avec la banane. C'est agréable, quoi.
Et parfois, à vos dépens. Il y a une histoire avec un festival à Spa.
Là, on avait dépassé.
Je vous renvoie au récit complet, mais c'était vraiment. Ça a marqué aussi votre début de carrière.
On avait dépassé les bornes. Hein. On ne savait plus ce qui était voulu, pas voulu. C'était les Marx Brothers. Hein. C'était cocasse et burlesque. Et là c'était involontaire. C'était Gaston Lagaffe. Hein. Voilà. C'était rigolo. Mais bon. J'ai toujours pensé, et surtout quand je me suis mis à écrire des chansons graves, ou des chansons qui jettent un froid parfois, j'ai dit je ne peux pas me présenter sur scène et faire que des choses comme ça. Il faut que les gens qui ont fait l'effort de venir, de payer leur place, qui font l'amitié de venir passer 2 heures avec moi, je peux jouer l'émotion, mais il faut aussi... Il faut qu'il y ait de la distraction, il faut qu'il y ait du rêve, il faut qu'il y ait du rire, du sourire. Sinon, c'est un peu complaisant, c'est un peu dur. Donc, effectivement, oui, cette dimension dure. Après, pour moi, ma cuisine interne, c'était les enchaînements, parce qu'on passe pas des larmes au rire comme ça. Ouais. Donc, il fallait trouver des transitions, il fallait que ce ne soit pas la douche écossaise tout le temps.
Et avec des déguisements, moi je ne vous ai pas vu sur scène malheureusement, mais j'ai vu...
Oui, il y en a eu à un moment. Il y a eu des effets spéciaux aussi, à un moment, il y avait des...
Alors, je ne sais pas laquelle choisir, pour illustrer cette partie-là de votre carrière, le côté sketch, sketch, etc. Il y en a qui sont très longs, Charlotte, c'est un sommet, mais moi j'aurais envie de passer l'atelier 15. Est-ce que ça serait bien une belle illustration ou pas? Au niveau du théâtre.
Mesdames, messieurs, nous devions interpréter devant vous ce soir la pièce de Tchaïkovski Zoborev, l'atelier numéro 15, dans la mise en scène d'Anton Pokolonievski. Mais les deux acteurs principaux, Tchaïkovski Zoborev lui-même et l'héroïne féminine, Madame Giugiu Castai, ont été bloquées à l'aéroport. Et ils n'ont pas pu venir. Nous avons donc été contraints, mes camarades et moi-même, de renoncer à jouer cette pièce. et en accord avec la direction du théâtre, Monsieur Nitschoff, de donner à la place ce récital de chansons folkloriques. C'est dommage. Mais alors, un mot quand même sur la pièce que vous n'avez pas vue. L'atelier numéro 15 est une pièce très connue chez nous qui a été créée en 1954 au Théâtre National Populaire de Dniraspol avec un succès immense. La pièce raconte l'histoire d'une fabrique exemplaire de machines agricoles qui dépasse les prévisions du plan. Et bien sûr, alors les problèmes pour les autres fabriques qui se retrouvent obligées de revoir leur mode de production. C'est résumé. Hein. C'est une très bonne pièce. Hein. Et avec aussi, pour mettre le piment, pour pimenter l'intrigue dramatique, une histoire d'amour. Très jolie. Entre une ouvrière spécialisée dans les circuits électriques des tracteurs et un chef d'équipe. Mais malheureusement, déjà marié à une infirmière de la médecine de travail. C'est très joli. Un peu triste, mais joli. C'est très souvent joué chez nous, très souvent. C'est comme je vais vous dire, un classique, si vous voulez. Très souvent joué, partout, très souvent. Aujourd'hui, moins. Mais c'est parce que chez nous, maintenant, les jeunes veulent avoir des blue jeans, des chaussures en plastique ou en caoutchouc, vous savez, avec des semelles, 10, 15, 20 centimètres. On voit des semelles qui montent. Les jeunes chez nous, maintenant, ils veulent comme ressembler aux images publicitaires pour des films comme américains. Ils ne savent plus les trésors du patrimoine, les racines du monde. Qu'est-ce que les racines du monde? C'est l'Inde, l'Orient, la Chine, les Aztèques, la Grèce antique, le Moyen-Âge, la Révolution française. Non. Ils veulent Adidas. Adidas et Levi Strauss. Rock'n'roll, c'est pas de boisson gazeuse, c'est Spicola. C'est ça qu'ils veulent. Alors maintenant, chez nous, c'est Hugo Boss, Calvin Klein, etc. Mais ça m'énerve. Excuse, je m'énerve. Quand même, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez aimé les chansons folkloriques. Merci. Mesdames, messieurs, alors, la prochaine fois que nous pouvons encore venir ici chez vous, nous donnons la version originale de l'atelier numéro 15. L'intégrale. Jamais joué, jamais donné. 5 heures. Magnifique. Pour vous remercier de l'accueil si gentil. Et quand même, excusez ce soir. Hein. Vive les échanges culturels. Vive l'amitié entre les peuples. Vive le canton de Vaud. Vive le théâtre.
Une fois, j'écoutais une émission de radio. Ça devait être France Culture. C'était peut-être France Musique. Mais enfin, c'était une radio comme ça. Et j'étais consterné. Mais consterné. Il y avait le présentateur qui s'écoutait parler, qui se gargarisait, qui se faisait des citations que personne ne connaît, de gens inconnus. Et puis alors, l'émission durait et durait. Il diffusait 2 minutes d'extrait musical et lui, il parlait 10 minutes là-dessus. Voilà, bon. Au bout d'un moment, je me dis, mais quel cuistre celui-là. C'est pas possible. Je vais l'épingler. Je ne me souviens plus de son nom, je crois qu'il a été viré depuis. Mais c'était une caricature de tout ce que... Attends, moi, bon, je suis un homme cultivé, j'aime la culture, mais j'aime autant la culture populaire et je déteste les prétentieux, les cuistres comme ça, les gens qui assènent leur savoir. Et là, c'était ridicule. Ridicule.
Donc, l'atelier numéro 15 est né de ces...
Ah, de ça, donc j'ai fait d'abord le présentateur... Qui s'écoute parler, qui voilà. Et ensuite, je jouais avec les musiciens, on jouait la pièce musicale déjantée, quoi.
D'accord.
Complètement. Elle est sur le disque.
D'accord. Moi, j'ai entendu juste le lancement, on va dire. Quand...
Ah non, c'est-à-dire que là, on s'en donnait à cœur joie. Et on jouait. Moi, je faisais une espèce de castafiore sous acide. Et les musiciens jouaient une parodie de musique contemporaine. Complètement déstructuré et on avait l'élégance de ne pas faire durer trop longtemps parce que je me sens tout le monde on pissait de rire quoi. Et d'ailleurs pour conclure un soir quelqu'un d'une de ces radios était dans la salle, m'a dit c'était très bien, par contre le sketch sur la musique contemporaine, franchement, je vous pensais au-dessus de ça.
On va terminer cette première émission avec Gilbert Lafaille et son œuvre autour de Jean-Carole, son grand-père en Ariège, avec une chanson « Les beaux débuts ». Pour terminer l'émission, c'est bien, c'est sur ses débuts dans la chanson. Et on le retrouvera, Gilbert et son grand-père, Jean-Carole, dans une prochaine émission sur Radio Transparence et Oxygène FM. À très bientôt.
J'aime assez vos musiques, un peu moins les paroles. Pas du tout grand public, encore moins musical. Beaucoup trop hermétique, trop chargé de symboles. Faites des trucs plus classiques, ou alors qu'on rigole. À Venise en gondole, ça c'était poétique. C'était une autre école, on était romantique. C'était pas comme maintenant, où le moindre étudiant qui gribouille et gratouille vient nous casser les pieds. Par les beaux débuts, dis les beaux débuts. 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 Dites Nicole, tant que j'y pense, appelez-moi le studio. Et dites à Marie-France de venir dans mon bureau. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Oui, la voix qui va pas. Et ce genre de truc-là, ça passe pas en radio. Ouais, la chanson d'amour, c'est gentil, c'est facile. Pour moi, c'est pas utile au niveau du discours. C'est pareil pour l'humour, c'est dans le genre ironique. Y a des trucs plus critiques au niveau politique. Ah les beaux débuts, dis les beaux débuts. 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 La chanson engagée, ah vous êtes tous les mêmes. Quand on a travaillé pendant toute la semaine, on voudrait bien souffler, se changer les idées. Et d'abord votre physique, c'est celui d'un comique. On ne vous a jamais dit que vous aviez un accent un peu belge ou allemand, bah je suis né à Paris. Ma mère est du Midi, elle s'appelle Paoli. Ah c'est bien ce que je vous dis, vous avez un accent. Moi j'aime bien ce que tu fais, moi aussi c'est très chouette. Là au point où t'en es, faut faire une vraie maquette. Nous on a un studio, 8 pistes et stéréo. Comme on est marginaux, on préfère en espèces. Vous m'êtes très sympathique, j'aime les jeunes, vous savez. Moi quand j'ai débuté, à l'époque héroïque. Quand on savait chanter, avant l'électronique. Sans micro, sans sono, vous n'étiez même pas né. Ah les beaux débuts, dis les beaux débuts. Ah les beaux débuts, dis les beaux débuts. Ah les beaux débuts, dis les beaux débuts. Ah les beaux débuts, dis les beaux débuts.
Ah les beaux débuts.
Comme d'habitude.